cours de phytopathologie générale. Niveau licence deuxième année, spécialité sciences agronomiques. Introduction. Depuis la découverte de l'agriculture par l'être humain, une étroite cohabitation s'est développée entre lui et les végétaux, mais aussi avec les agents pathogènes de ces végétaux. Dans la biosphère, les plantes supérieures, parmi lesquelles figurent les cultures agricoles, sont le siège de la photosynthèse, c'est-à-dire le processus par lequel les plantes transforment l'énergie solaire en énergie biologique. Les parasites et autres agents pathogènes, ne possédant pas de chlorophylle, sont incapables de réaliser cette transformation et sont donc obligés de puiser l'énergie biologique produite par les plantes, en prélevant pour se nourrir une partie de cette énergie stockée dans les différents organes végétaux. Qu'elle soit cultivée ou spontanée, une plante grandit et peut produire aussi longtemps que le sol lui fournit suffisamment d'humidité et de nutriments, que la lumière est captée par ses feuilles et que la température reste dans ses limites de tolérance. Malheureusement, lorsqu'une plante est atteinte d'une maladie, sa croissance, sa fertilité et sa productivité sont affectées. L'absence de contrôle sur une maladie des plantes peut avoir des conséquences considérables sur la production et la qualité des produits agricoles. Il en résulte souvent une augmentation des prix et une possible apparition de toxicité dans ces produits. Le contrôle des maladies induit donc une qualité accrue des produits, souvent accompagnée d'un prix plus élevé dû au coût de la recherche et du développement. Depuis plus d'un siècle, le contrôle des maladies des plantes s'est effectué par l'utilisation massive de pesticides, qui s'avèrent souvent toxiques non seulement pour les agents pathogènes des plantes, mais aussi pour les consommateurs. Certains micro-organismes provoquent des dégâts aux tissus végétaux sur pied ou pendant le stockage, tandis que d'autres, sans altérer les matières végétales, leur confèrent des propriétés toxiques pour l'homme et les animaux. La phytopathologie est aux plantes ce que la médecine est à l'homme, et ce que la médecine vétérinaire est aux animaux. Chacune de ces disciplines étudie les causes, les mécanismes et le contrôle des maladies affectant les organismes auxquels elles se rapportent. La phytopathologie est une science et une profession qui mobilise et combine les connaissances fondamentales en botanique, en mycologie, en bactériologie, en virologie, en hématologie, en anatomie végétale, et dans d'autres domaines connexes. Definition. La phytopathologie est l'étude des organismes et des facteurs environnementaux qui causent des maladies des plantes, des mécanismes par lesquels ces facteurs induisent les maladies, et des méthodes de prévention ou de contrôle de ces maladies. Les agents pathogènes qui causent les maladies des plantes sont les mêmes ou très semblables à ceux qui causent les maladies chez les êtres humains et les animaux. Il s'agit notamment des micro-organismes pathogènes tels que les virus, les bactéries, les champignons, les protozoaires et les nématodes, auxquels s'ajoutent les conditions environnementales défavorables. Chapitre 1er. Notions sur les pathologies des cultures. Première section. La signification d'une maladie chez les plantes. Une maladie de plante peut être observée à travers une succession de déformations de cellules et de tissus, survenant suite à l'attaque d'un micro-organisme ou à la modification d'un facteur environnemental. Une maladie peut bouleverser la forme, la fonction ou l'intégrité de la plante. Dans les cas les plus sévères, elle peut induire une altération partielle, voire la mort de la plante ou de certaines de ses parties. Les maladies des plantes sont classifiées selon plusieurs critères. On peut les regrouper par type de symptômes, comme par exemple les maladies de flétrissement, les maladies de pourriture, les taches foliaires ou la rouille. On peut aussi les classer par type d'organes affectés, comme les maladies racinaires, les maladies des tiges ou des fleurs. On les classe enfin par type de plantes affectées, comme les plantes herbacées ou maraîchères. Cependant, le critère le plus utile reste la classification par l'agent pathogène responsable. On distingue ainsi deux grandes catégories. D'un côté, les maladies infectieuses, dites biotiques, causées par des champignons, des procaryotes, des virus, des protozoaires ou des nématodes. De l'autre, les maladies non infectieuses, dites abiotiques, causées par des températures trop élevées ou trop basses, un manque ou un excès d'humidité, un manque ou un excès de lumière, un manque d'oxygène, un déficit nutritionnel, une pollution hydrique ou atmosphérique, ou encore une toxicité minérale ou liée aux pesticides. Deuxième section. Les conséquences des maladies des plantes. En ce qui concerne les dégâts et les pertes, la question que l'on se pose le plus souvent est de savoir quelle est l'importance des dégâts causés non seulement par les maladies, mais également par les ravageurs et les plantes adventices qui concurrencent les cultures. Cette question est simple en apparence, mais de telles données font souvent défaut. Pour mesurer l'ampleur de ces dégâts, les évaluations doivent prendre en compte les pertes directes au champ ainsi que les pertes indirectes de rendement qui se manifestent tout au long du processus de transport, de commercialisation et des chaînes de transformation. En ce qui concerne les effets des maladies sur la production, Malgré les importants moyens de lutte actuellement utilisés, les maladies des plantes entraînent toujours des pertes considérables. Ces pertes varient selon le type de culture, l'intensité et le type de lutte utilisée. On estime qu'environ 10% de la production potentielle mondiale est perdue en raison des maladies des plantes. À cela s'ajoutent les pertes dues aux ravageurs et les pertes après récolte. Dans certains pays africains, les conséquences de telles pertes se traduisent souvent par des famines lors de conditions climatiques défavorables. Ainsi, les maladies des plantes peuvent être à l'origine de graves problèmes économiques et sociaux. Concernant les effets de la maladie sur la valeur ajoutée, les maladies des plantes peuvent affecter les produits après leur récolte ou en diminuer la qualité, et donc la valeur ajoutée. On estime que dans certains cas, les pertes après récolte peuvent s'élever jusqu'à 40% de la production potentielle. Les transports, les traitements, le stockage et la distribution sont autant d'étapes où la maladie peut survenir. De nombreux agents pathogènes, comme les champignons et les moisissures, sont présents aussi bien dans les champs que sur les lieux de stockage. Troisième section. Les pathologies et la notion de risque. La mesure du risque que représentent les maladies des cultures est constituée par la perte de rendement qu'elles occasionnent. La notion de perte de récolte est liée à celle de rendement potentiel, de rendement accessible et de rendement réel. Le rendement potentiel est déterminé par un ensemble de facteurs physiques, comme la température et le rayonnement, et de facteurs physiologiques, comme la photosynthèse et la respiration, qui sont génétiquement fixés pour une plante donnée. Le rendement accessible prend en compte un certain nombre de facteurs qui limitent l'expression du génotype dans une situation de production donnée, notamment l'alimentation hydrique et minérale. Le rendement réel incorpore quant à lui les réductions associées aux maladies et aux autres calamités climatiques. La définition utilisée par la FAO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, pour une perte de récolte est la suivante. L'écart qui sépare le rendement accessible du rendement réel. Quatrième section. Les principes de la phytopathologie. Sous-section première. Les principes propres à une maladie. Premier point. Le triangle de la maladie. Il est important de bien distinguer une maladie d'un agent pathogène. Pour cela, il faut concevoir la maladie comme étant le résultat d'une interaction entre trois situations fondamentales. Premièrement, il doit y avoir une plante hôte susceptible ou prédisposée à devenir malade. Par exemple, certains champignons pathogènes des plantes attaquent principalement les jeunes racines, de sorte que les plantes les plus âgées ne sont pas susceptibles d'être malades. Deuxièmement, il doit y avoir un agent pathogène, parfois appelé agent causal, capable d'attaquer la plante. Troisièmement, l'interaction entre l'agent causal et la plante doit se produire dans un environnement favorable. Par exemple, certains agents pathogènes présents dans le sol ne peuvent attaquer les plantes que si le sol est suffisamment humide, tandis que d'autres sont plus actifs dans un sol sec. De nombreux champignons n'attaquent les feuilles des plantes que s'il existe une fine pellicule d'eau à leur surface. L'illustration de ces trois facteurs constitue ce que l'on appelle le triangle de la maladie. Ce triangle fournit également un moyen de lutte efficace. Si l'on maîtrise l'un de ces trois côtés, on peut éliminer ou atténuer la maladie. Par exemple, pour lutter contre un champignon pathogène, l'application d'un fongicide peut éliminer l'agent pathogène et supprimer ce côté du triangle. Si l'on utilise des cultures présentant une résistance génétique à un agent pathogène, on peut éliminer ou réduire le côté représentant l'hôte sensible. Et comme certains agents pathogènes ont besoin d'eau pour attaquer les racines, on peut supprimer l'environnement favorable en drainant l'eau ou en plantant lorsque le sol est sec. Deuxième point. Le développement de la maladie dans les plantes. Une plante devient malade dans la plupart des cas lorsqu'elle est attaquée par un agent pathogène ou lorsqu'elle est touchée par un agent abiotique. Dans le cas d'un agent pathogène, deux éléments sont nécessaires pour que la maladie se produise. La plante et l'agent pathogène doivent être en contact et interagir. Si au moment du contact les conditions sont trop froides, trop chaudes ou trop sèches, l'agent pathogène peut être incapable d'attaquer la plante. C'est ce que représente la troisième composante du triangle, à savoir l'ensemble des conditions environnementales. Chacune de ces trois composantes présente une variabilité considérable, et chacune peut affecter le degré de sévérité de la maladie, que ce soit au niveau d'une plante individuelle ou au sein d'une population végétale. Troisième point. Les étapes du développement de la maladie, le cycle de la maladie. Dans chaque maladie infectieuse, une série d'événements plus ou moins distincts se produisent et entraînent le développement et la perpétuation de la maladie et de l'agent pathogène. Cette chaîne d'événements est appelée cycle de la maladie. Un cycle de maladie correspond parfois à un cycle de vie du pathogène, mais il se réfère principalement à l'apparition, au développement et à la perpétuation de la maladie. Ce cycle implique des changements dans la plante et l'apparition de symptômes. Les événements principaux qui le composent sont les suivants, l'inoculation, c'est-à-dire le dépôt de l'agent pathogène sur la plante, l'incubation, c'est-à-dire la période entre l'infection et l'apparition des premiers symptômes, l'établissement de l'infection, la colonisation ou l'invasion des tissus, la croissance et la reproduction de l'agent pathogène, la diffusion de l'agent, et enfin sa survie en l'absence de l'hôte. Sous-section 2e. Le principe de diagnostic. Premier point. Le diagnostic en phytopathologie. Le diagnostic en phytopathologie végétale, aussi appelé phytodiagnostic, constitue l'une des activités fondamentales de cette discipline. Il est étroitement lié au triangle de la maladie et consiste en la détection, l'identification et la caractérisation des agents phytopathogènes, c'est-à-dire les agents causant des maladies végétales, qu'il s'agisse de bactéries, de champignons ou de virus. C'est un enjeu important pour la maîtrise et le contrôle des maladies des plantes. Le phytodiagnostic recouvre deux aspects distincts. D'un côté, l'identification, sur la base d'un individu ou d'une population d'individus présentant une symptomatologie précise. L'objectif est de mettre en évidence et d'identifier l'agent pathogène responsable des symptômes observés. De l'autre côté, la détection, il s'agit de rechercher la présence d'un agent pathogène par l'intermédiaire d'une méthode appropriée, avant même que les symptômes n'apparaissent ou ne soient clairement identifiables. Les techniques mises en œuvre pour le diagnostic sont variées. Elles comprennent l'observation et la classification des symptômes, l'observation et la caractérisation des agents pathogènes par examen visuel, ainsi que l'isolement et la culture des agents pathogènes dans un milieu artificiel. Deuxième point. L'observation des symptômes et l'interprétation des circonstances de leur développement. Une observation précise des symptômes et de leur évolution chez la plante hôte constitue la première étape du diagnostic. Les symptômes sont parfois suffisamment définis et spécifiques pour permettre d'identifier correctement la cause d'une maladie sans nécessiter d'autres analyses. Cependant, les situations rencontrées sont souvent complexes. Différents agents peuvent induire des symptômes similaires, tandis qu'inversement, un même agent pathogène peut produire des symptômes variables selon les circonstances. De plus, les symptômes les plus visibles ne s'expriment pas nécessairement au site d'action primaire de l'agent causal. Ainsi, certains agents pathogènes responsables de la nécrose du système racinaire provoquent d'abord des flétrissements ou des brûlures des parties aériennes de la plante. Troisième point. L'évaluation de la maladie. L'estimation des maladies, ou phytopathométrie, c'est-à-dire la mesure quantitative des maladies des plantes, constitue une étape fondamentale. Elle implique la mesure et la quantification de la maladie, ainsi que l'étude et l'analyse des épidémies. Cette estimation permettra de prévoir le développement d'une épidémie et de mettre au point un système d'aide à la décision pour contrôler les maladies des plantes. La quantification de la maladie doit satisfaire à un certain nombre d'exigences spécifiques. Il est notamment indispensable de standardiser des méthodes objectives d'appréciation de l'intensité des symptômes, de transposer ces intensités en niveau de dégâts sur la base d'une expérimentation au champ, et de traduire ultérieurement ces dégâts en termes de pertes économiques. La maladie des plantes peut être mesurée en utilisant des méthodes directes ou indirectes. La méthode directe consiste à évaluer la maladie directement sur le matériel végétal. La méthode indirecte consiste à surveiller la reproduction des agents pathogènes. Les méthodes directes de quantification sont celles qui présentent le plus souvent une corrélation avec les pertes de rendement des cultures et doivent donc être privilégiées. Elles concernent à la fois des estimations qualitatives et quantitatives des maladies. Quatrième point. L'évaluation quantitative directe. L'appréciation directe des maladies est réalisée à partir de deux paramètres principaux, l'incidence, ou fréquence, et la sévérité. La fréquence ou incidence de la maladie peut être définie comme le nombre d'unités de plantes visiblement malades, rapporté au nombre total d'unités estimées. On peut par exemple déterminer la proportion de plantes malades par champ, ou la proportion de tissus malades par plante. La fréquence est le moyen le plus rapide de mesurer la maladie, car elle nécessite seulement le comptage des unités malades, exprimé en pourcentage du nombre total d'unités. La formule est la suivante. L'incidence est égale au nombre de plantes malades divisé par le nombre total de plantes, le tout multiplié par 100. La sévérité de la maladie est définie comme la surface ou le volume de tissu de la plante visiblement malade, rapporté aux tissus totaux. Le degré de sévérité peut être exprimé par la proportion des organes présentant des symptômes. La formule est la suivante. La sévérité est égale à la surface des tissus malades divisé par la surface totale des tissus, le tout multiplié par 100. Contrairement à l'incidence, la sévérité est une variable continue, généralement comprise entre 0 et 1, et constitue une mesure de la qualité des tissus végétaux plutôt que du nombre d'unités de plantes touchées. La sévérité est une mesure plus fine et plus utile. Elle est parfois évaluée par le nombre de colonies ou de lésions pour une unité de surface donnée, ce que l'on appelle la densité de maladie. Les relations entre l'incidence et la sévérité représentent un concept épidémiologique important, et toute relation quantifiable entre ces deux paramètres permet une évaluation plus précise. Des systèmes de classification composés de 5 degrés ou de 9 degrés sont couramment utilisés. Pour illustrer cela, voici deux exemples concrets. Premier exemple. La maladie dite monosporoscus du concombre a été évaluée à l'aide d'une échelle de 1 à 5, classée de la façon suivante. L'échelle 1 correspond à une bonne santé, sans aucune lésion ni décoloration. L'échelle 2 correspond à une légère décoloration. L'échelle 3 correspond à une décoloration modérée avec ou sans lésion. L'échelle 4 correspond à une macération, c'est-à-dire des taches imbibées d'eau. Et l'échelle 5 correspond à une macération grave. Une autre échelle pour le même type de maladie peut être définie comme suit. 0 signifie aucune maladie. 1 signifie entre 1 et 5% d'infection. 2 signifie entre 6 et 10%. 3 signifie entre 11 et 15%. Et 4 signifie 16% et plus d'infection. Deuxième exemple. La tache bactérienne du poivron, causée par la bactérie Xanthomonas campestri, est évaluée sur une échelle de 0 à 8. 0 signifie aucune feuille malade. 1 signifie moins d'1% de surface foliaire malade. 2 signifie de 2 à 10%. 3 signifie de 11 à 20%. 4 signifie de 21 à 35%. 5 signifie de 35 à 50%. 6 signifie de 51 à 65%. 7 signifie de 66 à 80%. Et 8 signifie de 81 à 99%, avec une défoliation complète. La sévérité de la maladie peut également être calculée en mesurant la hauteur à laquelle l'infection se propage dans une plante, ce que l'on appelle la progression verticale de la maladie. Conclusion. Lorsque le diagnostic de la maladie ne peut être établi directement au champ, il y a lieu de prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire. Le prélèvement doit être effectué avec le plus grand soin, car de sa qualité dépendra la réussite des étapes suivantes, notamment l'observation microscopique et l'isolement de l'agent pathogène. Il est toujours préférable de prélever les plantes entières plutôt que de se limiter aux seuls organes qui semblent altérés. En effet, même si pour des raisons pratiques la détermination des maladies se fait souvent en fonction des organes atteints, un examen complet de la plante est souvent nécessaire. Des symptômes apparents peuvent n'être que la manifestation indirecte d'une maladie qui s'exprime sur une autre partie de la plante. Il est également judicieux de prélever des échantillons à plusieurs stades d'évolution de la maladie, notamment des plantes présentant un début de symptômes ou montrant un stade avancé d'affection, avec présence des organes de conservation des parasites.